Ces événements nous m'émeuvent beaucoup. Hein. Pour Joy, ça fait penser à Suzette. Évidemment, vous savez que Suzette n'est pas très très en forme. Et puis aussi pour le grand-père, parce que nous aussi, nous avons dans notre famille des gens qui sont religieux, comme Grégoire nous l'a dit. Et on se dit, mais ils sont coincés et ne sont pas des œillères, mais ce sont des choses dans lesquelles ils ont été conditionnés dès leur jeune âge. Et on se dit, il y en a qui arrivent à en sortir de ce conditionnement, et d'autres moins. Et dans quelle mesure le Seigneur, lui, juge, le juste juge, arrive à trier tout ça, quoi. Et quelquefois je me dis, mais il est merveilleux notre Seigneur, il est juste, et il sait trier, lui. Si moi je ne sais pas le faire, dans l'âme de l'homme, lui le sait. Alors, merci à Nolwenn et à la famille Metawi pour la contribution qu'ils vont m'apporter et que je leur ai demandé. Nolwenn, tu peux venir? Voilà. Voilà. Alors, je vous présente le prédicateur d'aujourd'hui. Regardez, tu peux peut-être le porter comme ça, le mettre plus haut.
Elle va
s'envoler. C'est dangereux si elle s'envole? Bonjour, petite colombe. Donc, ce n'est pas un prédicateur, c'est plutôt une prédicatrice. Je ne sais pas si théologiquement c'est correct, mais toujours est-il que c'est un bel animal. Enfin, je pense. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, on garde les fenêtres fermées, bien sûr, parce qu'on ne sait jamais. Hein. Bon, alors, je vais quand même traduire le prédicateur, quoi, parce que on aura du mal, hein. Voilà. Qu'est-ce qu'évoque pour vous cet animal, Nolwenn? Pour toi, cet animal, il représente
la paix.
Il représente la paix. On est tous d'accord, hein. Surtout qu'on voit souvent ce genre d'image avec une petite colombe qui vole avec un rameau d'olivier dans le bec. Et vous savez que ça évoque éventuellement l'arche de Noé. Et j'ajouterais que si cet animal évoque la paix, je dirais qu'aussi il évoque la paix revenue. Vous vous souvenez que c'était terrible ce qui s'est passé. Pas de repentance, on en a parlé ce matin, et le monde a pratiquement disparu. Et après ce monde disparu, il renaît. Donc, la paix est revenue. Elle n'a pas de branche d'olivier dans le bec, mais ce n'est pas grave. Hein. Et elle pourrait symboliser autre chose aussi. La pureté, l'innocence, la beauté, la fraîcheur, l'amour. Les amoureux de Péné, vous connaissez? Vous voyez, hein, à Saint-Valentin, puis on voit toujours une petite colombe qui se balade à côté. On ne va pas mettre un scorpion. Hein. Non, on va mettre plutôt une colombe. C'est beau une colombe. Puis pourtant c'est peut-être un mâle, c'est une femelle, non?
Oui.
C'est une femelle. Mais enfin, si c'était un mâle, il s'appellerait aussi la colombe. Comme quoi la beauté est plutôt féminine que masculine. Peut-être. En tout cas, c'est tellement joli qu'on a tendance à spontanément l'aimer, cet animal. Je pense qu'il nous représente aussi la spontanéité, la jeunesse, la vérité, la fraîcheur, la bienveillance. Cet animal représente facilement aussi autre chose dans la parole de Dieu. Vous vous souvenez? Le Saint-Esprit. Le symbole du Saint-Esprit. Et Jésus sortait de l'eau et juste après son baptême, hein, c'est ce qui est dit dans Matthieu 3, verset 13, et Jésus priait en sortant. Et le ciel s'ouvrit, et le Saint-Esprit descendit sur lui sous forme corporelle, presque sous forme corporelle, comme une colombe. C'est-à-dire que ce n'était pas une colombe, mais ça ressemblait à une colombe. Et qu'est-ce qui nous dit cela? C'est l'apôtre Jean. Si j'étais peut-être un apôtre, si on veut, mais non, c'était Jean-Baptiste. Jean-Baptiste avait eu une révélation de Dieu comme quoi le Saint-Esprit viendrait se poser comme une colombe sur l'individu qui viendra se faire baptiser, tu le verras au moment où il arrivera. Et Jean le Baptiste en a parlé donc à ses disciples, et les disciples l'ont transmis dans l'Évangile, et on le sait comme ça. Comme une colombe. Ce n'était pas une colombe tout à fait, mais ça ressemblait à une colombe. Quelque chose de bizarre dans cette chose, que le Saint-Esprit a pu se matérialiser sous forme corporelle et sous forme d'une colombe. Il aurait pu se matérialiser autrement. Vous n'avez pas d'autres endroits où le Saint-Esprit s'est manifesté d'une autre manière? Vous voyez bien, des langues à un moment donné. Et ces langues étaient brillantes, ou enfin, elles avaient une forme de flamme en même temps. Ça n'a pas la même connotation. La flamme, c'est le jugement. La langue, c'est la signification des langues. Et que, bien sûr, le jugement des langues est tombé et que maintenant, il n'y a plus de problème de langue. Le Saint-Esprit se révèle à quiconque croit en Jésus, n'importe où dans le monde. On peut parler papou ou inuit ou français. Eh bien, on est dans l'Esprit de Dieu. Alors, Noloué, merci pour ta colombe. Je te remercie aussi d'être resté, de ne pas être allé à l'école du dimanche. Mais maintenant, tu peux peut-être la mettre sur un siège, non? Enfin, comme tu veux. Je te libère et je te remercie pour ta contribution. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que c'est un moyen mnémotechnique pour nous faire réfléchir. Alors, je vous propose maintenant de lire dans Marc, au chapitre 8, au verset 11-12, ce que Jésus dit à un moment donné sur le comportement des pharisiens. Et vous savez que Jésus, merci Noloué encore, Jésus a fait plein de miracles. Il a fait des miracles. Il guérit un sourd muet. Il multiplie les pains, 4000, 5000. Il fait des choses extraordinaires. Et en général, ce sont des miracles, ce sont des miracles physiques, physiologiques, si vous voulez. Bon, imaginez qu'il y a un pain qui soit là, et puis tout d'un coup, vous avez tout un stock, une palette complète de pain, quoi. Mais ce sont des pains. Ce ne sont pas des pains qui s'illuminent, qui deviennent bizarres, qui s'envolent. Non, ils restent physiologiquement des pains. Et dans tout ce qui s'est passé pour Jésus, en général, c'est comme ça s'est passé. Les manifestations les plus bizarres qui se sont passées avec Jésus, c'est la transfiguration, par exemple. Mais ça, c'était dans un comité secret. Le reste du temps, c'était des miracles qui entraient dans la logique physique, tout en étant miraculeux. Et donc, dans tous ces miracles, il y a eu des gens qui se sont dit « Mais oui, c'est le Fils de Dieu. » Puis d'autres qui ont dit « Non, il chasse les démons par le prince des démons. » Non. Donc, vous voyez, il y avait une possibilité pour chacun de rester dans ses opinions sans être trop choqué par les miracles de Jésus. Jésus ne s'est jamais présenté comme, dans Ézéchiel, si vous voulez, devant tout le monde, comme une grande statue spirituelle avec les pans qui sont dans le temple et puis lui qui est encore au-dessus du temple, comme certains l'ont vu. Mais certains, tout seuls, avec Dieu, l'ont vu. Dans ces cas-là, c'était différent. Mais là, dans ces miracles que les gens ont vus, des miracles publics, c'était toujours pratiquement du physiologique. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, il y a des gens qui viennent le voir et qui lui disent « Rabbi, nous voudrions que tu nous donnes un signe. » Et moi, je me suis toujours posé la question, comment se fait-il que ces individus, au contact de Jésus, qui voient vraiment les miracles, ont demandé encore un autre miracle? Et en fait, ce qu'ils demandaient, c'était autre chose que ce type de miracle. C'était un miracle, vraiment miracle, quoi. Tu nous fais le miracle des miracles. Parce que là, 4000 pains, un aveugle qui est guéri, ça c'est du cirque. Enfin, j'exagère peut-être, mais on sent dans la mentalité ce genre de choses. Il voulait un signe. Et vous voyez ce qu'il dit Jésus, qui répond dans Marc chapitre 8, verset 11. Les pharisiens survint se mirent à discuter avec Jésus, et pour l'éprouver, lui demandèrent un signe venant du ciel. Jésus soupirant profondément en son esprit. Il y avait de quoi soupirer, hein, vous imaginez, il a fait des miracles, plein de miracles. Et puis les gens lui disent, oui, bon, écoute, nous les officiels, on veut un vrai miracle, on veut un signe. Il dit, pourquoi cette génération demande-t-elle un signe? Je vous le dis en vérité, il ne lui sera pas donné de signe à cette génération. Il n'y aura pas de signe. Donc, il n'y aura pas de signe dans le sens où ces gens l'attendaient, c'est-à-dire un gros truc, quoi. Le feu d'artifice, quoi. Quelque chose d'extraordinaire qui... Non. Et dans Matthieu, chapitre 12, verset 38-39, c'est la même chose, sauf que là, enfin, c'est un autre moment, hein, dans Matthieu. Matthieu 12, c'est un autre moment que Marc 8. Et dans Matthieu 12, 38, il nous est dit, il ne sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Alors, je me suis toujours posé la question, pourquoi Jésus dit cela? Et dans Matthieu 16, qui est l'événement qui correspond à Marc 8, nous avons aussi ça. Il dit Jonas. Matthieu 16, versets 1 à 4. Les pharisiens et les sadducéens, tiens, ils se mettent d'accord, ils sont d'accord pour aborder Jésus et pour l'éprouver, ils lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge, et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Bon, ce sont des techniciens météorologues. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps? Une génération méchante et adultère demande un miracle et il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas, puis il les quitta et s'en alla. On sent que Jésus veut couper les ponts avec ces gens-là. Pourtant, il va les secouer violemment pour qu'ils puissent se repentir, comme nous l'avons évoqué aujourd'hui, et qu'ils puissent sortir de leur mentalité de religieux, costauds, théologiquement puissants, qui finalement n'étaient pas du tout dans la volonté de Dieu. Alors, pourquoi je vous dis tout ça? Parce que c'est une exhortation pour moi et pour vous. Nous sommes, comme il a été également évoqué, même pour les enfants, que nous sommes imbibés de culture chrétienne et que nous pourrions être des consommateurs de christianisme sans être chrétien. Alors je ne dis pas ça pour vous, je dis ça pour moi parce que quelquefois j'ai parfois ressenti ça dans mon cœur. Je consomme du christianisme ou je suis chrétien. Bon, j'ai l'assurance du salut, rassurez-vous, et je pense que vous aussi. Hein? Mais voilà, quelque chose de bizarre. Alors pourquoi vous parlez de tout ça, de la colombe, etc. Alors j'ai une question maintenant à vous poser, question de culture si vous voulez. Comment on dit colombe en hébreu? Non, vous n'avez pas une idée? Yonah. Jonas. En grec, c'est Jonas. En fait, le livre de Jonas, c'est le livre de la colombe. Alors, franchement, est-ce que vous avez l'impression que l'attitude de Jonas ressemble à l'attitude d'une colombe? Regardez bien comment il a été. Est-ce que vous avez l'impression que cette petite colombe qui appartient à Nolwenn ressemble à Jonas, ou que Jonas ressemble à la colombe? C'est pas vraiment une colombe. Ou alors une colombe spirituelle, un peu malade, quoi. Donc ce message que je vous donne, c'est une exhortation. Soyons de vraies colombes. De vraies colombes. Pour cela, nous allons essayer de comprendre ce que voulait dire Jésus quand il dit le miracle de Jonas. Le miracle de Jonas, c'est quoi? Vous avez certainement dû déjà vous poser la question. Le miracle de Jonas, c'est quoi? C'est le signe de Jonas, c'est quoi? C'est le grand poisson? C'est la tempête? C'est le ricin? C'est les 3 jours dans la tombe? Parce que c'était la tombe pour lui. Hein. Vous savez, il ne s'imaginait pas qu'il allait en sortir. Hein. Hein. Vous avez dans Jonas la prière d'un condamné à mort au chapitre 2. comme il a écrit son récit après, il y a inséré tout ce qu'il avait ressenti, et il y a inséré aussi la résurrection qu'il a eue, qu'il a obtenue. Une résurrection. Il était dans un poisson. Franchement, on sait que les baleinières, au XIXe siècle, ont fait ce genre d'expérience. Un jour, il y a des gens, ils ont ouvert un cétacé, puis ils ont aperçu qu'il y avait quoi à l'intérieur ? Un homme vivant. Donc, c'est pas... Ne nous laissons pas avoir par certains qui diraient que Jonas, le livre de Jonas, c'est quelque chose qui est un petit peu allégorique. Il y a des symboles, bien sûr, mais c'est une réalité. Et certains ont expérimenté d'être avalés par un grand poisson. Et que veut dire Jésus ? Pour cela, nous devons rapidement énumérer tous les miracles. Bon, j'en ai compté 14. Comme ça, mais on peut même multiplier, il y en a plus que 14, pour moi, hein, pour moi. Pour vous, il y en a certainement peut-être plus, pour comprendre ce que Jésus voulait transmettre. Dans Marc, Jésus dit qu'il n'y aura pas de signes, hein, vous avez vu, de miracles. Par contre, dans Matthieu, Jésus dit qu'il y a un signe. Ce sera celui du prophète Jonas, ce n'est pas des signes, des miracles, c'est un signe. Sous-entendu, en fait, c'est pas celui que vous attendez. Vous vous souvenez que quelqu'un a sollicité Jésus et que ce quelqu'un l'a placé en haut du temple, enfin en haut de l'aire du... On sait où c'est au sud-est de l'enceinte du temple, et là il y a une grande dénivelée, et cet individu a dit: Jésus, mais il saute. Parce qu'il nous est dit que les anges te porteront de peur que ton pied ne heurte une pierre. Mais l'idée, c'était quoi ? Tu veux vraiment être le Messie et qu'on te voit ? Fais un signe. Tu fais un grand signe. Là, ils vont te voir arriver comme descendant d'un parachute sans parachute. Ils vont te voir atterrir tout seul. Et ils vont tous comprendre que tu es le Messie. Tu vas devenir le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Et puis tu seras le roi d'Israël. Et tu vas bouter les Romains hors de France. Non, excusez-moi, c'est pas ça. Hors d'Israël. Et puis tu seras le roi. Suggestion pratique pour un bon chrétien que je suis. Seigneur, donne-moi de la puissance pour que tout d'un coup, tous mes collègues se convertissent, quoi. Vous voyez, ce genre de système. Et les Juifs étaient là-dedans. Et Satan était là-dedans. En fait, ce qu'ils attendaient, c'était le royaume de Dieu, selon leur mentalité. Et quelle était cette mentalité ? Eh bien, vous savez que dans Luc chapitre 9, versets 51 à 56, il nous est dit que Jésus a terminé son ministère, qu'il redescend de Galilée vers la Judée, et qu'il fallait qu'il passe par la Samarie. Et en passant par la Samarie, il arrive dans un village de Samaritains, et les Samaritains disent : Où vas-tu ? Je vais à Jérusalem. Non, 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 nous on ne te reçoit pas. Si tu vas à Jérusalem, nous on ne te reçoit pas. Et donc, Jésus sort avec ses disciples qui sont scandalisés, qui disent, les disciples: Seigneur, veux-tu que nous commandions le feu du ciel pour qu'il vienne les consumer ? Ouais, ça c'est le style juif, ça. C'est le style chrétien en colère. C'est le style qui n'est pas la colombe, qui n'est pas dans le style de la colombe. Vous êtes bien entendu. Vous vous souvenez que dans Jude, au chapitre 1, il n'y a pas de chapitre, il n'y en a qu'un, au verset 14 et 15, un texte sur Enoch qui nous dit: voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades, pour accomplir le jugement et punir les impies. Alors, j'ose vous le dire, mes frères et sœurs, je pense que quelquefois j'ai eu ce genre de choses dans mon cœur, et je dois m'en repentir, c'est que certains chrétiens aiment bien qu'on parle de l'Apocalypse, de l'eschatologie, dans l'optique du feu du ciel. Pas très intéressés au salut des âmes, mais plutôt par la punition du ciel. Quel est donc ce drôle d'état d'esprit qui les anime ? Vivement que le Seigneur revienne ! Comme ça, tous ces impies brûleront en enfer. Est-ce que c'est une profession de foi chrétienne, ça ? Non. Nous pouvons comprendre que devant la persécution, cet esprit peut nous atteindre. Vivement le retour du Seigneur pour que tous les méchants périssent. Et ce n'était pas du tout l'esprit du Seigneur qui ressemblait à une colombe. Vous vous souvenez, il dit, il arrive à Nazareth, et puis il entre dans la synagogue, et puis tout le monde est affairé parce qu'il y a le rabbi là, qui fait des miracles partout, qui vient, ouais, on va l'écouter. Et puis le rabbi en question, il clique sur son... Non, il regarde dans son moteur de recherche qu'il a là, et tout d'un coup, il tourne la Bible, enfin la Torah, et il trouve dans les prophètes qu'il écrit, Ésaïe 61, « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. » Pour annoncer... Bon, attendez, on va le voir. Ésaïe 61, donc, tout le monde est là, au garde à vous, enfin, les oreilles au garde à vous. « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. » Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel. Stop. Il s'arrête. Oh, tout le monde est scandalisé. Il s'arrête. Personne semble intéressé à Nazareth par tout ce qui vient d'être dit. Ça, c'est le style colombe. Pas Christophe Colomb, hein, non, colombe. Style la pureté et la bonté de Dieu qui se manifeste sous forme corporelle comme une colombe dans le Saint-Esprit. Pourquoi le rabbi s'arrête là, juste au verset 2, mais la moitié du verset 2? Nous, ce qui nous intéresse, c'est la deuxième moitié du verset 2. Lisez. Un jour de vengeance de notre Dieu. Ils ont les Romains à côté, ils les subissent, et c'est pas marrant. Ce qui les intéresse surtout, c'est pas la première partie, c'est la seconde, la vengeance. Et alors après, Jésus, voyant ce qui se passe, leur dit, mais écoutez, vous savez, du temps de Sarepta, là, la veuve de Sarepta, Élie, il a été envoyé chez elle. Et puis, vous savez, du temps d'Élisée, il y avait plein d'épreux en Israël. Ben, vous savez, qu'est-ce qui était guéri? Un méchant Syrien, Naaman. Donc, comprenez. Est-ce que vous comprenez pourquoi je suis venu? Je ne suis pas venu pour la vengeance. Je suis venu pour bénir le monde entier, même les Syriens, même les Libanais. Alors là, ils sont tellement fâchés qu'ils prennent Jésus et qu'ils vont le jeter à la falaise. Heureusement, Jésus n'a pas été jeté à ce moment-là. Extraordinaire. Mais vous comprenez le genre d'état d'esprit que ces gens avaient et que je peux retrouver dans mon cœur tout d'un coup. Je me dis, mais attends, Seigneur, c'est pas normal que j'ai ça dans mon cœur. Et c'est vrai qu'il y a tellement d'horreur aujourd'hui qu'on peut se dire, Seigneur, juge. Alors on peut crier, effectivement, Seigneur, fais justice. Mais Seigneur, je sais qu'avant de faire justice, ce que tu veux, toi, c'est que tout le monde soit sauvé, que tous ces gens soient sauvés, que les extrémistes, ceux qui se font exploser, ceux qui font des choses infâmes, tu veux d'abord, non pas les juger et les tuer, mais d'abord les sauver. Oh. Seigneur, donne-moi plus d'amour pour les gens, pour les étrangers, pour les samaritains, pour les... etc. Hein, les homosexuels, parce qu'aujourd'hui, c'est la mode. Hein. Alors, on va d'abord voir un premier miracle de Jonas. Je ne sais pas si je vais avoir le temps de tout énumérer ce que j'avais envie de faire, mais il y en a au moins quelques-uns qu'il faut faire. Le premier, c'est le miracle de Jonas. Le premier miracle de Jonas. Et ce premier miracle de Jonas, c'est dans 2 Rois. 14, 26 et 27. Ce n'est pas dans Jonas. Le premier miracle de Jonas n'est pas dans Jonas. Il n'est pas dans la colombe, il est ailleurs. 2 Rois 14, 26, 27, si vous pouvez prendre 2 Rois 14, 26, 27, vous verrez que l'Éternel, verset 26, l'Éternel vit l'affliction d'Israël à son comble et l'extrémité à laquelle se trouvaient réduits les esclaves et les hommes. Vous vous souvenez, le système d'esclaves et d'hommes. En Israël, celui qui n'avait plus d'argent, il se mettait à crédit pour quelqu'un, et au bout de 7 ans, il était libéré, etc. Hein, il y avait tout un système. Hein. Donc, l'Éternel vit l'affliction d'Israël et à son comble et l'extrémité à laquelle se trouvait réduit, esclave et homme libre, sans qu'il y ait personne pour venir au secours d'Israël. Alors l'Éternel n'avait point résolu d'effacer le nom d'Israël de dessous les cieux. Et il les délivra par Jéroboam, fils de Joas. Pas le premier, hein, celui qui s'est érigé contre Roboam, le fils de Salomon. Pas celui-là. À la fin, c'est pas encore la fin, c'est dans un siècle après Israël, le royaume du Nord dans un siècle plus tard, vers moins 721 avant Jésus-Christ, vers 720, sera éradiqué. Mais tout ce royaume du Nord, il y aura des rois qui seront impies. Je crois qu'il n'y en a pas un seul qui a vraiment suivi le Seigneur. Et il n'y a plus rien, quoi. Du point de vue spirituel, il n'y a plus rien. Osée, d'autres prophètes de ce temps-là disent des choses tristes sur ces moments-là. Mais vous voyez, il nous est marqué que là, vers moins... Allez, ça doit être moins 780 par là, avant Jésus-Christ. À peu près dans ces eaux-là, Jonas, puisqu'il nous est dit que Jonas intervient, vous le voyez au verset 25, même 24, hein, Jéroboam 2, hein, c'était le deuxième Jéroboam, Jéroboam 2, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël, il rétablit les limites d'Israël depuis l'entrée de Hamat jusqu'à la mer de la plaine. La mer de la plaine, c'est soit le nord de la mer Rouge, soit c'est le golfe d'Aqaba. Vous voyez, on ne sait pas trop. Mais enfin, dans tout ça, la crise économique a été virée. C'était l'opulence. Et certains archéologues, je ne sais pas s'ils ont raison, je ne sais pas, ils disent qu'à cette époque, c'était aussi prospère que du temps de Salomon. Pourtant, aucune raison logique, à part la compassion de Dieu, a permis cette richesse, parce que en Israël, personne dans ce royaume du Nord ne s'intéressait à Dieu. Personne. Et voilà qu'un prophète qui originaire, nous est-il dit, de Gath-Hépher, près de Nazareth, dans la banlieue de Nazareth. Il était de Nazareth, ce gars-là, Jonas. Et Jonas prophétise que Dieu va les sauver par Jéroboam. Et donc il y a eu un instant encore de grâce de Dieu pour Jéroboam et la suite. Bon, bien sûr, comme le royaume du Nord a périclité spirituellement, un siècle, ou même un peu beaucoup moins, enfin non, 60 ans après, enfin à peu près, c'était fini. Ils ont été déportés. Après, vous savez que les Samaritains sont venus. Ils ont été... il y a eu un transfert de population. Et puis il y a eu d'autres problèmes, mais ça, c'est pas le sujet ici. Vous voyez, Jonas a vu la grâce de Dieu pour un peuple qui se fichait complètement de Dieu. Jonas, la colombe. Maintenant, Jonas, puisque tu as fait ça, maintenant tu vas aller dans la ville de l'Antichrist, la mégalopole, Ninive. Après, Dieu le missionne pour aller ailleurs. Et ayant expérimenté la grâce de Dieu, Jonas est certainement prêt à partir pour Ninive pour sauver ces pauvres Ninivites. Alors, ça, c'est le deuxième miracle, si vous voulez. Le premier, c'était donc Jéroboam II. Et le deuxième miracle, c'est quoi ? C'est que Dieu s'occupe des chiens d'étrangers. Je dis chiens d'étrangers, ça vous paraît un peu, peut-être, un petit peu irrespectueux, mais je me mets dans la peau de Jonas. Vous voyez ? Il y a des gens encore aujourd'hui qui disent que les chiens d'infidèles, il faut en faire de la chair à canon. Enfin, je ne sais pas. Hein, bon, vous voyez ? Mais on est un peu dans cette idée-là. Dieu s'occupe des chiens d'étrangers. Ça, c'est un miracle. Dieu s'occupe, il s'intéresse au monde entier. C'est extraordinaire. Alors, je vous dis tout ça, vous avez toujours en optique que c'est Jésus qui répond aux pharisiens pour leur montrer. Jésus montre son optique en disant il n'y aura que le miracle de Jonas, c'est pas, à ces pharisiens, pour essayer de faire montrer aux pharisiens que Jésus a une vision bien plus large du salut que leur propre façon de voir. Non, non, Seigneur, moi, je ne veux pas m'occuper des choses dévalorisantes. Je veux m'occuper que des chrétiens, pas des mécréants, pas des fanatiques, des intégristes religieux. Moi, je suis spécialisé en prophétie pour mon peuple, pas les autres. Et Jonas trouva un avion pour partir à l'extrémité du monde. Il paya son billet et embarquement immédiat. Hein? Installez-vous au terminal 666. Enfin, ce n'était pas un avion, bien sûr, c'était un navire. Troisième miracle, une tempête. Inattendue, anormale. Sinon, les marins ne seraient pas partis, parce que c'était des experts en navigation. Ces marins ne seraient pas partis. Une lutte pour conserver la vie, au point que tous ces mécréants s'aperçoivent qu'il y a un problème spirituel. Relisez, vous verrez. Jonas, lui, il a foi en Dieu. Hein. Il est dans le bateau, mais il a foi en Dieu, lui. Il sait que les événements subis par ces hommes sont liés à lui et à Dieu. Mais il sait que Dieu fait grâce. Enfin, que Dieu lui fait grâce. Le pilote du bateau, un marin confirmé, subodore que le comportement de Jonas est lié au problème actuel. Pourquoi ? Jonas, paisiblement, comme une colombe, dort du sommeil du juste au fond de la cale. Tirage au sort, et là je crois que Jonas imagine bien qu'il va être dévoilé. Parce que lui, le sort, il connaît bien, vous savez. Dans son pays, en Israël, ça s'appelle l'Urim et le Tumim, que le souverain sacrificateur consulte dans les cas difficiles. Jonas s'explique enfin, il est dévoilé. Ben voilà, je suis parti pour fuir mon Dieu. Mais je ne vous ai pas tout dit. Ce n'est pas un dieu domestique ou national que je fuis. Non, non, c'est mon Dieu, c'est le Dieu des dieux, le Dieu des cieux, celui qui est au-dessus de tout. Oh, c'est la panique à bord. Quelle solution insoluble! Alors Jonas leur explique. Il n'y a pas d'autre solution que de le suicider. Il a la foi, Jonas. Il sait que Dieu est derrière tout ça. En se suicidant et en utilisant les autres pour se suicider, il réussira à imposer à Dieu son point de vue. Il ne veut pas aller à Ninive. Quatrième miracle. Les mécréants, les impies, ne voulurent pas du conseil de Jonas. Ils ne voulaient pas le tuer. Ils voulaient former une seule cellule avec Jonas dedans. Pourtant, lui, le fauteur de troubles. Une seule cellule pour vaincre l'adversité, tous ensemble. Juifs, grecs, esclaves, libres, hommes, femmes, tous ces gens-là, ils ne voulaient pas en lâcher un. Même le responsable. Ça, c'est un miracle. Des gens non-croyants qui se comportent dans l'adversité mieux que Jonas, la colombe. Miracle. Cinquième miracle, les mécréants, ils se tournent vers Dieu, le Dieu du ciel, cette fois-ci, et confessent que Dieu est le Tout-Puissant et le supplient de ne pas être des meurtriers. Cinquième miracle. Sixième miracle, la tempête s'arrête instantanément, dès le plongeon de notre héros colombophile. Et les marins se tournent résolument vers le Dieu des cieux. Ils se tournent vers le Dieu des cieux. Jonas, même par sa désobéissance, arrive à convertir des gens. Les gens se convertissent par sa désobéissance, quand même. Sixième miracle. Septième miracle. Jonas, avalé par un grand poisson, se repent vraiment de son péché. Ça aussi, c'est un miracle. C'est ce qui arrive plus souvent qu'on ne le croit pour ceux qui sont à l'agonie, au seuil de l'éternité, comme le brigand sur la croix. Là, il n'y a plus de cinéma. Tout devient plus authentique. Huitième miracle. Jonas ressuscite. C'est inespéré. Le grand poisson le recrache sur la plage. C'était pas vraiment prévu par Jonas. Neuvième miracle. Dieu ne change pas d'avis. Ça, c'est un miracle. Dieu ne change pas d'avis. Il redemande à Jonas la même mission. Dieu lui fait grâce et le rétablit dans sa fonction. Lui, Jonas. Jonas, tu vas aller dans la ville de l'Antéchrist. Oui, je vous dis la ville de l'Antéchrist parce que Ninive a été construite par, vous le savez, Nimrod, qui est un Antéchrist. Un des Antéchrists. Il nous a dit qu'il y a plusieurs Antéchrists et qu'un jour il y aura le bon, enfin, entre guillemets, le bon. Hein. Dieu aurait pu dire, tu sais, Jonas, tu es disqualifié, hein. Tu es vraiment nul. Je vais prendre un autre prophète que toi. Non. Dieu reprend Jonas. Quelle grâce. Dixième miracle. Jonas obéit et il n'a même pas le temps de faire le tour de la mégalopole que la ville se repent. Alors je vous pose une question. Mais quelle était l'intonation, à votre avis, de la voix de Jonas quand il a dit « Encore 40 jours et Ninive est détruite ?» Ça pourrait être, je vous donne deux choix, hein, possibles, il faut à vous de choisir, dans votre cœur, hein, vous ne dites pas. Premier choix, je suis bien content, parce que dans 40 jours, Ninive est détruite, je suis bien content. Ça, c'est le premier choix. Puis le deuxième, je vous en supplie, Ninivite, le Dieu du ciel vous donne encore 40 jours pour vous convertir, pour changer de chemin, pour revenir à lui, écoutez-le. On ne sait pas, hein. Moi, j'ai mon choix. Je vous le dis tout de suite. Je pense que c'est la première solution. Je pense que Jonas n'était pas encore tout à fait colombe, vous voyez, à ce moment-là. Et tous les hommes, toutes les bêtes, tous les animaux. Je ne sais pas si les colombes, elles ont mis des sacs, hein. J'en sais rien. Mais enfin, tous les animaux et tous les hommes ont porté le sac et la cendre, même le roi de Ninive. Onzième miracle. Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. C'est un verset, hein, qui est marqué. Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et ne le fit pas. On dirait qu'il y a trois personnes qui se sont mises à délibérer et dire « Bon, je me repens de ça. » Et puis l'autre personne qui se trouve dans la Trinité divine a dit « Oui, on avait résolu, c'est vrai, mais bon, ben, on ne va pas le faire. » Hein, on a une espèce de décision à trois là-dessus. Curieux. Ninive sera encore épargnée pendant 150 ans. Et les Babyloniens, enfin c'est plutôt les alliés de Babylone, enfin les alliés de Nabopolassar, le papa, enfin le père de Nebuchadnezzar, qui détruiront la ville en moins 612. Et elle sera éradiquée. Et un archéologue en 1850, après Jésus-Christ, découvrira Ninive. 24 siècles de mort totale. Mais il y a eu 150 ans de grâce à cause de Jonas. Alors Jonas est irrité parce que Dieu a pardonné à Ninive. On est toujours dans l'optique de Jésus qui répond aux pharisiens. Hein. N'oubliez pas. Dieu a pardonné à Ninive. Dieu lui procure un parasol à Jonas, pas à Ninive, hein, à Jonas. Un parasol naturel plus efficace que la petite cabane qu'il a construite. Il fait chaud. Pourquoi Jonas restait là? Il attendait les 40 jours supplémentaires? Parce que il y avait 40 jours qui s'étaient passés. Probablement. Puisque il était évident que Ninive n'était pas détruite. Il attendait peut-être encore 40 jours. Quoi? Le lendemain, son arbre parasol détruit par un insecte rongeur. La chaleur était telle que Jonas trouva la vie inutile. Lui qui avait survécu à la tempête et aux grands poissons, il pleure son parasol. Il ne pleure pas les milliers de personnes de Ninive, non, il pleure son parasol. On est un peu dans les deux poids deux mesures, vous ne trouvez pas? Jonas. Treizième miracle. Dieu s'adresse à lui et lui explique que les hommes, quels qu'ils soient, et aussi les animaux, il les a eus en pitié. On a presque l'impression que Dieu se justifie. Regardez, vous verrez dans Jonas. On a l'impression qu'il se justifie, Dieu, auprès de Jonas. Te fâche pas, mon petit Jonas. Te fâche pas, comprends-moi. J'ai pitié des êtres vivants. Je leur souhaite la vie éternelle. Le signe important, c'est le pardon que je désire donner à tous. Tant pis si tu te sens discrédité, parce que ta prophétie ne s'est pas accomplie. Ça, c'est pas important. Ce qui importe, c'est la repentance, dont on ne se repent jamais et qui mène à la vie. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est nouvelle création. Si quelqu'un est en Christ comme une colombe, pas comme les pharisiens, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes les choses sont devenues nouvelles. Et Jonas n'est pas encore dans la nouvelle, mais bientôt. Celui qui est en Christ, il est naturellement dans la repentance. On en a parlé, curieusement, beaucoup ce matin. Il est naturellement dans la repentance et constamment dans la repentance, même sauvé par grâce, et naturellement dans la certitude du salut en même temps. 14e et dernier miracle. Je crois que j'arriverai à faire l'heure. 14e et dernier miracle. Jonas a écrit, sans camouflage, toute son histoire. C'est Jonas qui l'a fait. On est sûr, parce qu'il nous raconte des choses intimes. C'est Jonas. Et il nous démontre ainsi qu'il s'est repenti. Cette histoire a été incluse dans la Bible, c'est pas pour rien. Et Jésus en parle. Et répond aux pharisiens, qui sont un type de religieux dangereux. Parce qu'ils arrivent à bloquer le message du salut. Jonas ne l'a pas bloqué. Il l'a transmis parce qu'il était un peu forcé. Et il a réussi à sauver Ninive pendant 150 ans encore. Parce que Jésus, c'est plus que Jonas. C'est bien plus que Salomon. Et est-ce que moi, vous, nous avons cet état d'esprit de la colombe? Mais attention, la question est de savoir, comme au début ou comme à la fin? Je vous propose maintenant que nous prions. C'est fini. Seigneur notre Père, notre Dieu, combien ces événements que tu nous donnes à lire, qui sont parfois cocasses, parfois très dramatiques, nous amènent à nous poser des questions, à me poser des questions sur mon état d'esprit, sur ce que tu veux voir en moi de beau, qui ressemble à la colombe, qui ressemble à ton Saint-Esprit, et qui est illuminé par ton Saint-Esprit dans mon cœur, dans notre cœur. Permets, Seigneur, nous soyons des Jonas, mais des vrais Jonas, pas comme au début, mais plutôt comme à la fin. Que nous soyons, comme le Seigneur Jésus l'a dit, des gens qui acceptent le signe de Jonas, qui acceptent de mourir à eux-mêmes, et de faire un peu comme Jonas qui ne l'a pas voulu, mais nous voulons te demander que tu nous y aides, que nous soyons morts à nous-mêmes, et que nous puissions avoir vraiment autre chose dans notre état d'esprit que ce comportement pharisien. Seigneur, bénis-nous. Et je te remercie de ce que nous ne sommes pas trop pharisiens. C'est vrai, Seigneur, nous sommes des gens sincères avec toi. Mais Seigneur, nous voulons te remercier de ce que tu nous aimes tel que nous sommes et que tu vas nous aider et nous utiliser comme Jonas pour que nous soyons de vraies colombes. Au nom de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus. Amen.